Mondoscopie, un magazine coproduit par RCF et Radio Vatican, présenté par David Milia.
Le 14 février 2005, Rafik Hariri, l'ancien premier ministre libanais, était assassiné à Beyrouth. Un an après, le Liban se souvient, un souvenir douloureux mais qui a lancé le pays du cèdre sur la voie de la démocratie. Nous entendrons le témoignage d'un Libanais ivre d'espoir pour sa patrie. Au sommaire de ce magazine également, l'eau et l'Afrique, le continent a soif malgré ses multiples réserves. Coup de projecteur à l'occasion du 13e congrès de l'Association africaine de l'eau, rendez-vous qui se déroule à Alger cette semaine. Un an jour pour jour après l'assassinat de Rafik Hariri, le 14 février, 1 million de Libanais est descendu dans la rue. Un élan populaire pour réclamer plus de transparence, de justice et de démocratie dans un pays en proie à tous les règlements de compte internationaux. Depuis plus de 20 ans, le Liban est sous tutelle syrienne, même si paradoxalement, la mort de l'ancien premier ministre libanais a changé la donne. Les troupes d'occupation se sont retirées, la communauté internationale fait constamment pression sur Damas, a priori responsable de la vague d'attentats qui secoue le Liban depuis un an. Alors quelles sont les perspectives pour le Liban, un pays à la fois meurtri par la guerre, mais aussi marqué par l'espoir du champ des possibles. Le 14 février, c'est tout le Liban qui est sorti dans la rue, chrétiens et musulmans, ensemble pour construire un monde nouveau, du jamais vu selon Antoine Nasri, professeur d'université à Beyrouth. Le Liban pense enfin à lui, le Liban va enfin peser dans la géopolitique de la région. Écoutez-le, c'est à la fois un témoignage du cœur et de la raison.
Ceux qui complotent contre l'indépendance du Liban ont beaucoup parié sur l'éclatement de la révolution des cèdres. Mais là, vous avez aujourd'hui la démonstration flagrante, manifeste, que cette flamme subsiste, que l'âme des martyrs, et ceux, surtout ceux qui ont été lâchement assassinés par des actes terroristes durant l'année 2005, l'âme des martyrs vit, revit dans chacun des Libanais aujourd'hui. Et certainement, cet événement a énormément de sens, surtout après un an. Les Libanais n'oublient pas, ils se souviennent. Ils se souviennent avec une énorme vigueur. Après un an de l'attentat terroriste contre le président Hariri, il a plusieurs sens et on doit en tirer les conséquences. Grande signification d'abord, une expression de la solidarité nationale des Libanais pour la liberté. Au-delà des clivages confessionnels, communautaires, régionaux, etc., cet océan de plus d'un million de personnes est aussi une expression que les Libanais, après avoir été pendant longtemps une scène, un théâtre d'affrontement pour les autres, un pays trottoir, si vous voulez, au sens péjoratif du terme, pour la liquidation de conflits extérieurs, les Libanais aujourd'hui ont crié tous à l'unanimité. Liban d'abord. Liban d'abord, c'est-à-dire un Liban qui soit vraiment une patrie, et non pas un terrain d'affrontement pour les autres. L'événement d'aujourd'hui a aussi une grande signification, très importante pour la région arabe. Il exprime le refus catégorique contre toute forme d'assassinat politique. L'assassinat politique, depuis déjà des années, est devenu presque une coutume dans la région arabe. Des slogans, des idéologies ont essayé de le justifier pour des causes. Parce que depuis le 14 février 2005 jusqu'à aujourd'hui, 2006, il y a eu tant de tendances, tant de tactiques pour fragmenter le mouvement du 14 mars, pour briser la solidarité libanaise. Parce qu'il est vrai, les forces syriennes ont quitté le Liban, les forces armées syriennes ont quitté le Liban, mais les forces syriennes restent encore dans les institutions libanaises, avec des alliés interposés. Et alors, une des grandes significations de ce mouvement d'aujourd'hui, c'est une opposition contre toute forme de tactique, contre tout ce qu'il y a comme résidu des anciennes alliances libano-syriennes pour la domination du pays des cèdres. C'est une expression de la détermination des Libanais. leur fidélité, leur volonté de maintenir la flamme pour récupérer l'indépendance complète dans ce pays, pour que le Liban soit, comme l'avait dit le pape Jean-Paul II, plus qu'un pays, un message de convivialité, un message de renaissance arabe renouvelée, un message d'arabité indépendante.
Est-ce que vous avez l'impression que depuis un an, depuis la mort et l'assassinat de Rafik Hariri, le Liban a progressé vers la voie de la démocratie et de l'indépendance ?
Non, très partiellement. Il y a quelques tendances vraiment positives. Il y a une liberté d'expression très renforcée. Les gens parlent ouvertement contre le service de renseignement et contre la tyrannie syrienne dans le pays. Il y a une liberté d'expression plus renforcée. Il y a une reprise de la liberté, de l'indépendance de la magistrature. Il y a une solidarité plus grande de la part des Libanais, mais il y a encore des résidus des anciennes forces d'occupation à travers les institutions.
C'est-à-dire, elles se manifestent comment ?
En fait, elles se manifestent par le maintien dans le pays, au niveau des institutions, de certains symboles de l'ancien régime libano-syrien de non sécuritaire, au fond. Au niveau de la présidence de la République et au niveau des services de sécurité. Et le Conseil des ministres a beaucoup de peine à imposer les changements qui nécessaires pour restructurer les services de sécurité, pour restructurer la magistrature, pour relancer le rôle de l'armée dans toutes les régions du Liban.
Parce qu'on voit que les Libanais ont envie de changer les choses. Pourquoi finalement les institutions restent si attachées à la Syrie ?
Le Conseil des ministres, en fait, est un Conseil des ministres de coalition. Et donc, à l'intérieur de la coalition ministérielle, il y a quelques ministres qui sont d'une tendance opposée. Les cabinets ministériels au Liban ne sont pas des cabinets à la manière britannique ou américaine. Ce sont des cabinets de coalition. Il faut un peu composer avec les alliés au sein des formations ministérielles. Je crois qu'il y a encore quelques partis politiques et la présidence de la République qui constituent des forces de blocage contre des changements absolument indispensables.
Alors, on l'a évoqué, le Liban, depuis l'assassinat de Rafik Hariri, a été ébranlé par de nombreux attentats. Comment vous analysez cette série d'attentats ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ?
Ah, bien sûr, ce sont des attentats qui sont, si vous voulez, du volume de l'attentat terroriste du 11 septembre 2001 à Washington. Si on compare un peu la dimension du Liban par rapport à la dimension des États-Unis, l'attentat contre le président Hariri, c'est en fait une action militaire organisée contre le convoi du président Hariri. Puis les autres attentats, c'est une application du système de gouvernement de beaucoup de régimes terroristes dans la région arabe. L'assassinat politique est un moyen d'action qui a été durant des années couvert par des slogans et des idéologies. Je crois que les Libanais aujourd'hui ont crevé l'écran. Et ils vont crever l'écran, pas seulement au Liban, dans toute la région arabe, contre les assassinats en tant que moyen d'action politique. Et ces assassinats visaient à faire taire les Libanais, à créer un terrorisme intellectuel. Et au contraire, les assassinats ont revitalisé la société en tuant Gebran Touahiné, en tuant Samir Kassir, en tuant les journalistes. Vous avez maintenant, sans Gebran Touahiné et sans Samir Kassir, et vous aurez des milliers de Samir Kassir, de Gebran Touahiné. Et on pensait qu'avec ces attentats, on ferait taire le Liban. Ces attentats ont visé la classe dirigeante libanaise. Et dans ce sens-là, c'est vraiment inquiétant. Parce qu'un pays a besoin non seulement d'un peuple vivant, mais aussi de leaders. Et quand on a commencé à tuer les leaders, vraiment personnellement, ça m'a énormément inquiété. Parce que surtout le Liban, dans un pays, dans un moment de transition démocratique, il a besoin de leviers qui tiennent en main le changement.
Qui a intérêt aujourd'hui à déstabiliser le Liban ? Est-ce que les Libanais le savent, n'ont plus de doute sur l'identité de ces meurtriers aujourd'hui ?
Je crois que le régime syrien est acculé à se rendre à l'enquête internationale qui est actuellement en cours, ou bien à semer la pagaille dans la région. Et le président Bachar al-Assad l'a dit à plusieurs reprises, qu'il va semer la pagaille dans la région. Mais en fait, le Liban, sur le plan rationnel, n'est plus une carte de pression. Le Liban est devenu un piège. D'ailleurs, le Liban a toujours été non pas une carte de pression. Beaucoup de pays étrangers l'ont utilisé comme carte de pression. Il est devenu un piège. Il a été un piège pour les Palestiniens qui ont beaucoup regretté de s'être infiltrés dans les affaires intérieures libanaises. Les Israéliens ont écrit tellement de livres sur le coup de leur invasion du Liban. La Syrie parle tellement de ses sacrifices au Liban. Et actuellement, il faudrait que les Libanais adoptent le principe, la devise « Liban d'abord ». En fait, le régime syrien parie sur le temps. Il parie sur le temps, il ajourne les échéances, tergiverse à propos de l'enquête internationale. Il n'a plus que le jeu du temps. Mais ce jeu du temps a aussi des limites.
Vous évoquiez cette enquête internationale. Elle a permis de faire des progrès quand même. Comment vous analysez cette année d'enquête?
Je crois que l'enquête internationale a presque tout révélé. Si on lit les deux rapports du juge international Mélis, qui sont deux rapports volumineux, il y a aussi plus de 40 pages de documents sur l'enquête. Je pense que l'enquête est presque finie. C'est le jugement qui doit avoir lieu. Et il y a encore une partie de l'enquête qui doit être menée avec certains responsables syriens. Et la Syrie tergiverse sur la collaboration avec l'enquête. Mais jusqu'à quand elle peut tergiverser? Mais l'enquête, à mon sens, est presque terminée. Il s'agit de parachever certains détails. Elle révèle presque tout sur l'immixtion de responsables libanais et syriens dans l'assassinat du président Hariri.
Quels détails?
Énormément de détails sur les... Il y a des enregistrements téléphoniques. Il y a des menaces aussi qui sont enregistrées. Le président Hariri a eu plusieurs menaces de la part de responsables syriens. Et puis l'envergure de l'opération, comme dit le rapport de Mélis, ne peut pas être menée uniquement par quelques petits groupes, par des groupuscules terroristes. Mélis montre que ça ne peut être mené qu'à partir de l'institution étatique organisée. C'est un terrorisme d'État, en fait. Plus que l'acte de quelques individus ou de groupes.
Certains ont également évoqué le rôle des États-Unis dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Le rôle des États-Unis? En fait, on a évoqué, mais on n'a aucune preuve sur cela. Et alors que dans le rapport de Mélis, il y a tellement d'autres preuves et d'indices. Surtout que, juste après l'attentat terroriste contre le président Hariri le 14 février, vous avez tous les détails dans le rapport de Mélis. Comment les autorités dites officielles au Liban ont essayé de camoufler les traces de l'attentat pour détruire les possibilités d'enquête. Et vous avez eu ensuite, à travers plusieurs témoins, comment les responsables syriens ont essayé de faire dévier l'enquête de son cours normal. Je crois que ce qui est important, c'est que le Liban, en tant que petit pays, jouit maintenant d'un soutien international, un soutien de l'ONU. Et je pense que on devrait distinguer entre l'ingérence extérieure, le soutien extérieur et les résolutions internationales. Depuis le 11 février, le 11 septembre 2001, l'attentat aux États-Unis, il y a un changement dans la politique internationale concernant le terrorisme. On constate de plus en plus que le terrorisme se propage, non pas directement à travers des États forts, mais à travers de petites nations, des États fragilisés, qui sont des États satellisés, qui sont utilisés comme terrain de propagation du terrorisme. C'est ce qui se passe au Liban. Le Liban a été un pays satellisé par un État voisin pour propager des actions terroristes. Et le soutien de l'ONU pour le Liban est un soutien qui a des conséquences sur l'avenir de l'ONU, sur l'avenir de la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme n'émane pas du Liban, il émane d'un pays voisin qui utilise le Liban comme un terrain de propagation d'actions terroristes. Cette conscience internationale, malheureusement, n'est survenue qu'après l'attentat du 11 septembre 2001. Et un petit pays comme le Liban a besoin d'un soutien de l'ONU pour sa démocratisation, pour sa liberté, pour son indépendance. Ce que je dis à propos du Liban s'applique aussi à d'autres petites nations qui risquent d'être satellisées par des États voisins dans un but de, dans des enjeux régionaux internationaux et pour la propagation du terrorisme dans le monde.
Voilà, c'était le témoignage d'Antoine Nasri, professeur d'université à Beyrouth. Il est également le fondateur de la Fondation libanaise pour la paix civile permanente. L'Afrique a soif. Chaque année, les spécialistes de l'eau se réunissent pour évoquer les problématiques du continent en la matière. Cette semaine, Alger a accueilli le 13e congrès de l'Association africaine de l'eau. En présence de plus de 400 intervenants, ils représentent une trentaine de pays africains. Eau et assainissement, quelle stratégie pour les défis du millénaire? La sécheresse a rendu impérative la solidarité autour de l'eau. Son économie fait partie de la culture. À l'heure où les cours d'eau et les nappes phréatiques sont surexploités, la lutte contre le gaspillage est le premier défi du continent. Un continent qui pourtant, à l'origine, n'a pas besoin d'eau. Écoutez les explications de Sylvain Huchère, secrétaire général adjoint de l'Association africaine de l'eau.
Le problème en Afrique n'est pas un problème de ressources. Nous avons beaucoup d'eau, que ce soit des eaux de surface, les lacs, les rivières, que les eaux souterraines. Mais nous n'utilisons en Afrique qu'environ 5% de ces potentialités d'eau-là. Et ces 5% qui sont utilisés, bien sûr, sont utilisés avec un rendement certainement très faible. C'est-à-dire que les réseaux d'eau dans les villes africaines sont aujourd'hui obsolètes. Donc la problématique qui se pose pour les pays africains, c'est premièrement les réseaux d'eau, pouvoir améliorer ces réseaux d'eau, pouvoir faire des extensions de ces réseaux d'eau-là et pouvoir desservir les populations. Donc voilà à peu près les problèmes que rencontre l'Afrique. Ce n'est pas un problème de ressources en eau, mais c'est les fonds nécessaires pour mettre en place les différentes unités de potabilisation de cette eau et qui créent donc les difficultés en Afrique.
Parce qu'il y a beaucoup de progrès qui ont toutefois été faits, en tout cas beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis les années 60. Quelle est l'ampleur de ces progrès qui ont été faits en ces quelques années?
Ben écoutez, il faut quand même se dire que depuis les années 60 jusqu'à maintenant, disons jusqu'aux années 80, 70-80, la desserte en eau était quand même ascendante. Au niveau des années 80, on a bien constaté dans nos différents pays une réforme institutionnelle, bien sûr appuyée un peu par les institutions de financement, mais les réformes institutionnelles qui amenaient un peu les différents pays à réfléchir sur le partenariat public-privé. Ainsi, aux environs des années 80, on a connu beaucoup de réformes institutionnelles dans nos différents pays qui ont amené des sociétés privées à se voir octroyer des gestions déléguées ou des conventions de concession pour la gestion des services publics. Bon, cela a apporté au départ certaines améliorations. Mais le problème qui se pose est justement la vétusté des réseaux. Parce que pour la plupart de ces sociétés qui arrivaient pour gérer de manière privée les services publics, tout ce qui concernait les biens de l'État demeurait à l'État. C'est-à-dire les réseaux, les stations de potabilisation, etc., demeuraient à l'État. Et l'État, malheureusement, n'a pas engrangé assez de financement pour pouvoir renouveler toutes ces choses-là. Le problème aujourd'hui, c'est justement la vétusté de ces équipements que nous rencontrons aujourd'hui.
Quelles sont les régions d'Afrique les plus touchées, les pays les plus touchés par ces problèmes?
Bon, il est vrai que je disais que l'Afrique a beaucoup d'eau, mais cette eau n'est pas également répartie. Il faut quand même savoir que les pays sahéliens connaissent des difficultés en eau, ainsi que on peut descendre même subsaharien jusqu'au Mali, jusqu'au Niger. Pour ce qui concerne les pays du littoral, l'eau existe, il n'y a pas de problème. Là, c'est les financements qui manquent éventuellement pour transformer cette eau-là et la rendre potable. Je pense que si on veut considérer les choses, l'Afrique du Sud serait très bien partie, pas trop de problèmes. L'Afrique centrale, beaucoup d'eau, pas mal de problèmes aussi. L'Afrique de l'Ouest, de l'eau, aussi quelques problèmes au niveau de la transformation, de la potabilisation, disons. Et l'Afrique du Nord, bon, a toujours quand même ses problèmes de ressources.
Est-ce qu'il y a un pays qui a valeur d'exemple en matière de politique d'eau?
Ben écoutez, pour l'instant, ce qu'on peut regarder, on peut prendre le cas de la Tunisie, qui a une très très bonne gestion de son secteur de l'eau, qui est un secteur public. La société tunisienne d'eau, la SONED, est une société publique, mais qui a une gestion privée et qui s'en sort très très bien. On a aussi l'Afrique du Sud, qui aussi marche très très bien au niveau du secteur de l'eau. Et c'est peut-être un des pays qui peut atteindre les objectifs du millénium dans la panoplie des pays africains.
Alors, ces objectifs du millénium, quels sont-ils exactement?
Les objectifs du millénium, pour ce qui concerne le secteur de l'eau, est de pouvoir faire en sorte à ce que d'ici 2015, de pouvoir atteindre justement la desserte de plus de la moitié des populations non desservies par l'eau.
Parce qu'aujourd'hui, on est à quel chiffre à peu près en ce qui concerne cette desserte de l'eau?
Ah, on est bien loin. On est bien loin, disons que si nous faisons une moyenne, on n'est vraiment pas du tout, éventuellement dans l'espoir d'atteindre ces objectifs minimums en Afrique. Seuls certains pays pourront l'atteindre, d'autres sont en bonne voie, mais je pense qu'une grosse partie des pays africains ne pourront pas atteindre ces objectifs.
Parce que alors, en Europe, vu d'Europe, ces problèmes d'eau peuvent paraître un peu surréalistes. Nous, en Europe, on n'est pas confrontés du tout à ce type de problèmes, ou en tout cas, on a du mal à les imaginer. Sur le terrain, les populations, de quelle manière elles souffrent concrètement? Comment ça se passe pour elles?
Ben écoutez, l'objectif, c'est quand même de pouvoir avoir de l'eau au robinet dans toutes les maisons. Bon, aujourd'hui, en Afrique, ce n'est pas tout à fait le cas. Ce n'est pas toutes les maisons qui ont de l'eau au robinet. Néanmoins, on crée des puits, néanmoins, on crée des forages pour apporter cette eau-là aux populations. L'intérêt, un peu, c'est de pouvoir apporter cette eau-là le plus près possible des populations.
Est-ce qu'il y a des gens qui meurent de soif encore aujourd'hui en Afrique?
Non, je ne dirais pas que notre problème d'eau est à ce point-là crucial. Mais il est quand même important de savoir que les maladies liées à l'eau sont quand même importantes en Afrique. Ceci peut entraîner cela.
Vous parliez également des aides européennes notamment. Comment sont distribuées ces aides? Est-ce qu'il y a des problèmes de corruption ou comment ça se passe concrètement en termes de gestion des aides?
Non, je ne pense pas qu'au niveau du secteur de l'eau, il y ait cette problématique de corruption dans la mesure où les aides ne sont pas encore très importantes, quelles que soient ces aides-là. Ces aides sont normalement distribuées, pour ce qui concerne l'Union européenne, il s'agit de projets, de présenter des projets bancables et que ces projets puissent vraiment être aussi rentables.
Et ça demande un effort de la part des pays africains?
Bien sûr, bien sûr. Il faut que le projet soit béton, en quelque sorte.
Parce que pour vous, le nœud du problème, il est où exactement?
Ben, écoutez, vous avez pointé le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est carrément le financement de ces projets-là. Vous savez que dans le monde, le secteur de l'eau est le secteur, premièrement, le moins rentable comparé au secteur de l'énergie, du transport ou des télécommunications. Le secteur des télécommunications est celui qui engrange le plus d'argent et le secteur de l'eau et de l'assainissement est celui qui est vraiment le parent pauvre du système. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de mobiliser un peu la communauté internationale, de mobiliser un peu les bailleurs de fonds sur cette problématique. Il est vrai que ce n'est pas rentable, mais c'est quand même un élément essentiel à la vie.
C'était l'analyse de Sylvain Huchère, secrétaire général adjoint de l'Association africaine de l'eau. Pour en savoir plus sur ce 13e congrès de l'Association africaine de l'eau, un site internet, c'est le www.caae2006.com. Voilà, c'est la fin de ce Mondoscopie. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce magazine sur le site internet de la rédaction française de Radio Vatican, sur le www.radiovaticana.org. Nous mettons à votre disposition la nouvelle technologie des podcasts. Voilà, la semaine prochaine, vous retrouverez Bernard de Cotigny. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.